Nous sommes mercredi 24 mars 2021. Vous êtes de nouveau confiné, mais vous êtes dans le seul
Depuis un
bar
an.
Ouvert en France, le Dojo Bar.
Bar
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Galaxies.
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Mecton.
Bonsoir.
Et bonsoir Monsieur Zergy.
Salut.
Et nous allons avoir une émission pas si chargée que ça finalement. J'ai très peur de la troisième partie.
Ouais, tu dis ça et à chaque fois on fait une
Ouais.
Et non, mais je sais, c'est
charge. Le on va commencer.
C'est voilà. Le running gag de. Voilà.
Qui commence, ça y est.
Très bien.
Santé.
C'est le running gag de début d'émission. Hein, c'est... Ah, dis donc, elle va pas être très longue celle-ci. Donc, nous allons parler de Little Nightmares
titre.
2.
Putain,
titre aussi.
Incroyable. Trop bas.
Little Nightmares 2, titre aussi.
Au secours.
Stop.
30 secondes et on a déjà niqué le truc.
Voilà. Donc, Little
parce
Nightmares
que si on
2.
Comme ça. Et on un parlait... jeu d'horreur, titre.
Oui, voilà, non, on peut faire beaucoup. Bravely Default 2, alors là, le JRPG avec des personnages mignons, ça va être du. Ouais, tu pourras pas faire de titre, tu vois.
Ah, quoi. Mais on verra.
Bref, nous allons parler donc des numéros 2, hein, Little Nightmares 2, Bravely Default 2, mais nous allons commencer tout de suite par un petit tour de l'actu. Je vais commencer par monsieur Antix.
Ouais.
Qui avait fait le malin en nous disant ça y est, RIP Mario 35.
Ah merde. tu veux que je dise quoi? Attends, je vais aller chercher le communiqué de presse
alors,
de Nintendo.
Est-ce que Nintendo va vraiment le faire? Est-ce qu'ils vont vraiment couper Super Mario 35 au 31
alors,
mars?
Tout ce qu'on sait, c'est que Mario meurt le 31 mars. Hein, c'est Nintendo qui l'a décidé, je vous le rappelle. Puisqu'on ne pourra plus jouer, on pourra plus acheter Mario 3D All-Stars et Super Mario 35. Vous avez
mais
déjà tous oublié, je pense.
Ils ont quand même confirmé que les cartes cadeaux Super Mario 3D All-Stars continueront à fonctionner après le 31 mars.
Bon, heureusement.
Bah, on va
faire une chiaise.
Non, mais en vrai, c'est toujours. Enfin, alors, il y a un autre truc aussi qui s'arrête le 31 mars, qui sera plus disponible le 31 mars, c'est la version anniversaire du premier Fire Emblem.
Ah ouais?
Que vous avez sûrement aussi tous oublié, et moi inclus.
Putain, je l'ai lancé, ça a vieilli, hein, ça sent bien la naphtaline, quoi.
Ouais, ah ouais, bah
comme
coup,
tous les jeunesses.
Alors, pour le coup, celui-là, il y a eu un petit effort parce qu'ils l'ont traduit, mais bon, j'ai pas trop compris pourquoi c'était cette version-là de Shadow Dragon qu'ils ont fait, alors qu'il y a déjà un remake DS qui était quand même un peu plus abordable visuellement, quoi.
Bah, c'est peut-être pour le côté ça coûte pas cher.
Bah, ça coûte encore moins cher de dumper une RAM-DS, non? Je sais pas.
Je sais pas. Le truc, c'est que l'émulateur est peut-être
la
pas
Switch
prêt.
Est pas assez puissante pour émuler une DS.
C'est possible, là. C'est possible. Mais du coup, ouais, non, ça va être. On va vraiment voir si effectivement Nintendo va mettre sa menace à exécution et assassiner son plombier favori.
Je peux vous faire une chiaise. Ça ouvre les portes pour l'anniversaire de Zelda. Ils nous font un Zelda Battle Royale. Ils l'enlèvent l'année prochaine et ils sortent les deux en compile.
Il y a aussi l'anniversaire d'une petite licence oubliée qui s'appelle Metroid.
On ne sait pas de quoi tu parles.
On ne sait pas de quoi tu parles.
Je croyais qu'il allait dire F-Zero.
Parce que cette année c'est
aussi. F-Zero, c'était l'an dernier.
Tu veux dire Golden Sun?
Stop.
Bah, il y a aussi Pokémon cette année. Hein.
Ah, c'est une licence oubliée, Pokémon.
Ah, mais Pokémon,
c'était pas au courant.
Bah, c'est bizarre, cas, oublié déjà. Par la qualité, mais. Bah,
non, mais niquez-vous pour Pokémon, c'est bon, ils vont faire un MMO là, c'est bon.
On va pas faire de.
C'est aussi l'anniversaire de Xenoblade.
C'est aussi, ouais. Faux, parce que c'est de 2010 au Japon.
Oh. Bref, bon, voilà, c'était juste. Monsieur Mecton, vous voulez nous parler alors d'un scandale relatif.
Un scandale!
Non, attendez. Quand Nintendo a fermé le WiiWare, enfin l'eShop Wii, je sais plus comment il s'appelait, le WiiWare.
WiiWare, oui.
Voilà. C'était un scandale, c'était vraiment des assassins, c'était des fils de pute. C'était
parce qu'on pouvait plus jouer à Little Wings, c'était cool comme jeu.
C'était les derniers des salopards. Quand Sony ferme le PlayStation Store pour PS3, Vita et PSP,
tout le monde s'en branle. Alors qu'il y a des jeux qui vont, bah, de la même manière, disparaître. Qui n'étaient accessibles qu'à travers le shop.
Inutilisables.
De la même manière que les premiers simulateurs qui sortent, c'est toujours pour les consoles Nintendo, hein. Les autres, tout le monde s'en fout.
Alors après, dans le cadre de la PS3 aussi, parce que c'était une console qui était extrêmement dure à programmer, je pense qu'à mon avis, ils ont chié.
C'est pas impossible, sachant qu'il y a des émulateurs PS3 qui aujourd'hui arrive à reproduire les...
L'émotion.
Alors, c'est pas l'émotion, en fait. Ce qui se passe, c'est que... c'est pas tout à fait l'émotion. C'est pas tout à fait l'émotion. Ce qui se passe, c'est que la PS3 a une architecture assez particulière qui fait qu'en fait, chaque cœur qui est disponible dans le CPU est grosso modo comme une espèce de toute petite machine indépendante. Et elle est capable d'exécuter son propre petit code. Et donc, quand tu optimises vraiment tes jeux, ce qui est le cas, par exemple, de The Last of Us, qui est un des premiers jeux qui a été, justement... où l'objectif des mecs qui fabriquent l'émulateur était vraiment d'émuler correctement The Last of Us, parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, ils avaient un moteur correct pour ça. L'idée de ces jeux-là, en fait, c'est d'aller compiler en fait un tout petit morceau de code qu'on va faire exécuter par ce tout petit noyau, et qui va faire des trucs beaucoup plus vite que si on faisait du code très très lourd qui s'exécute au global sur le processeur. Donc toute la difficulté de l'émulation PS3, c'est d'arriver à reproduire ces espèces de tout petits cœurs qui sont complètement indépendants les uns des autres.
Ça me fait penser, en fac d'info, on avait une conférence d'un mec de chez Ubi qui nous racontait, je sais plus sur quel premier jeu PS3 il avait bossé, je la place maintenant à l'anecdote, la doc du SDK était en Jap, donc autant te dire que tu te démerdes, quoi. Et il nous a raconté, ils ont galéré un peu plus d'une semaine et ils ont fini par faire une fête quand ils ont réussi à afficher un triangle.
Oui, ça me choque pas.
Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de... Enfin, on disait justement, les consoles Sony, on s'en fout. Et c'est vrai que la PS3, les gros jeux intéressants, finalement, ils ont été réédités sur PS4. Donc c'est vrai qu'à part, Tokyo Jungle, qui est un super jeu et qui n'a pas été réédité...
Metal Gear 4, qui est resté encore quelque sur PS3.
C'est vrai.
Mais attendez, oui, mais la PSP Go...
une version physique,
est...
quand même.
La oui, PSP Go, elle est morte.
Non, la PSP Go, elle est inutilisable.
Elle est morte, t'as
sur
raison.
Tu t'en sers de presse-papier.
Ah, non, alors il y a toujours de l'émulation, ce qui sert.
Et du piratage.
On se rappelle, hein, toutes les PSP du monde servent maintenant à émuler des Game Boy. Ça, c'est un fait vérifiable.
C'est un fait vérifiable.
Mais, ça a émulé la DS.
Mais bah, grosso modo, en vrai, je sais pas qui utilise encore sa PSP pour jouer à des jeux PSP. Mais voilà, première du nom. Hein,
alors,
avec le stick qui ressemble plus à une crêpe qu'à un stick.
On va lancer un appel dans toute la France pour essayer de trouver une personne qui joue encore à la PSP, à des jeux PSP, qu'il a acheté sur...
Le vrai défi, c'est trouver quelqu'un qui sert de ce PSP pour regarder des UMD.
Ouais,
c'est
vrai qu'il y a eu ça.
Ah, mais du coup, ils arrêtent aussi de vendre des films.
Bah,
parce que le store en ligne
non.
de la PS3, pour moi, ils vendaient des films aussi.
Si, je crois. Oui, ils ont déjà arrêté ça, je crois.
Alors après sur
le PSN,
sur le PSN, t'as aussi, enfin la PlayStation 4, t'as aussi accès aux films. En fait, il y a pas beaucoup d'intérêt finalement au store PlayStation 3 à part peut-être 2-3 jeux. Mais le reste, c'est très confidentiel. Et, bon, malheureusement, c'est chiant parce qu'on pourrait plus y avoir accès.
Alors voilà, c'est confidentiel, mais ça repose toutes les questions de préservation.
Exactement. Le vrai problème, il est là plutôt.
Il y a pas de problème pour la Vita. Il y avait pas de jeu.
C'est pas faux.
C'est pas gentil.
Je crois qu'il y a un jeu Vita qui sort dans pas longtemps. Ah oui, non, c'est Pixel Love qui sort... comment ça s'appelle ? Scourgebringer sur Vita.
Oh putain, les mecs, ils sont... Enfin bref. Bon voilà, donc c'est comme à chaque fois, effectivement, qu'il y a un truc comme ça qui se produit, se pose la question de la préservation d'un certain nombre de jeux qui ne seront plus édités, seront perdu si par hasard les pirates font pas leur boulot correctement, ce qui est triste. C'était le sens de l'article qu'avait envoyé Mecton pour préparer l'émission.
C'est un article de Kotaku, si vous voulez le trouver.
Qui disait, en gros, les pirates font le boulot des éditeurs, et en préservant le plus possible ce type de patrimoine-là, et en les laissant de nouveau accessibles d'une manière ou d'une autre.
Sachant qu'en plus, la période PS3, c'est une période où t'as eu beaucoup de studios qui ont fermé, d'éditeurs qui ont mis la clé sous la porte. Donc en plus, c'est même pas sûr que les codes de ces jeux soient encore préservés quelque part.
Yeah, ils étaient chez OVH.
Ouais, alors ça se trouve, en plus, c'est ça. Mais voilà, en fait, ce qui est important de souligner, c'est que c'est pas... Pour le coup, effectivement, ils font le boulot des éditeurs, mais je pense que même dans certains cas de jeux PSN, les éditeurs ou les studios n'existent plus, et donc les codes, on sait pas où ils sont, si vous êtes conservé par quelqu'un ou jeté à la poubelle.
Les codes sources, oui, il y en a probablement une bonne partie qui ont été perdus.
C'est pas une nouveauté que les codes sources dans le jeu vidéo, c'est des trucs qui se perdent assez facilement. Bah, d'ailleurs, récemment... Il y a eu une interview des équipes de Ninja Gaiden.
Ils ont mis du temps avant de se dire que ça serait bien de les sauvegarder, quoi.
Ouais, mais par exemple, là, les remakes de Ninja Gaiden qu'on va avoir, ils ont choisi les versions Sigma, qui sont les versions améliorées, parce qu'ils ont perdu le code source des versions d'avant.
Ah, putain. Ils apprendront... Enfin, ils en avaient pas. À l'époque, ils apprenaient pas.
Très vieilles,
enfin,
c'est des...
Ah oui, non, c'est pas très vieux, ça a une vingtaine d'années.
Ninja Gaiden ?
Ouais.
Ceux qui ressortent sur Switch, c'est lesquels ?
Le premier est sorti en... Alors, c'est les 3D, donc le premier est sorti sur la première Xbox, le second
donc
sur la
2001,
seconde.
En 2002, un truc comme ça.
Voilà. Voilà, donc c'est en gros, ça devait être un truc genre 2002, 2007 et 2012 de mémoire. Hein. C'est quelque chose comme ça. Hein.
Ouais, voilà, mais du coup, effectivement, c'est un peu... C'est un peu triste quand on y pense, parce que effectivement, le peu de cas que faisait un éditeur d'un jeu. Mais je pense qu'aussi il y a une question d'époque, c'est-à-dire que à cette époque-là, une fois que ton jeu il était imprimé sur le CD, finalement, t'avais pas vraiment de DLC à part sur Xbox où tu commençais à en avoir en milieu de vie de la Xbox, mais c'était quand même assez limité. Donc t'avais pas vraiment de raison de retourner à ce jeu-là et de retourner à ce console-là.
C'est vrai qu'il y a aussi les DLC.
Voilà, à part pour produire la suite, mais la suite utilisait pas toujours le même moteur de jeu, utilisait pas toujours les mêmes équipes, enfin avait pas toujours les mêmes équipes derrière, donc ça avait pas forcément de sens de revenir au même moteur de jeu ou donc de conserver le code source du jeu. Parfois juste les assets étaient conservés, mais pas forcément le code source. Ça a une certaine logique. Aujourd'hui, comme t'as une vraie gestion dans le temps du jeu avec des patchs de correction éventuellement de bugs, des patchs de correction multijoueur avec des DLC qui sortent, t'as un peu plus intérêt à conserver ton patrimoine, je pense.
Bah, et si tu conserves le code source, tu peux ressortir une version remake après.
Oui.
Mais voilà, oui. Mais encore faut-il que tu existes encore pour pouvoir ressortir la version remake.
Mais
voilà.
Il faut pas s'appeler Square.
Mais du coup, voilà, que tu ne te trouves pas dans les limbes des ayants droit. Parce que je rappelle que ça aussi c'est quelque chose qui existe.
Oui, bah par exemple Skull Pilgrim jusqu'à très récemment n'était téléchargeable nulle part parce que il y avait plus de droit, il est ressorti il y a très très peu de temps. Dans une nouvelle version, c'est le cas des Marvel vs Capcom aussi qui apparaissent et disparaissent des stars de manière régulière.
Le Kotaku, l'article de Kotaku citait No One Lives Forever, qui est sorti en 2000, je crois, sur PC.
Là, c'était cool comme jeu, ça.
C'était très cool comme jeu et qui a été perdu en fait parce que Activision ne savait pas ce qui lui appartenait, ce qui lui appartenait pas dedans. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'un jeu vidéo, comme un long métrage, est une œuvre composite, donc il y a des compositeurs. Certains cèdent les droits de la musique, d'autres les conservent.
Alors, la très grande majorité cèdent les droits, mais typiquement, on va parler du compositeur Dragon Quest, lui, il a son copyright.
Ce sale bâtard.
Et c'est aussi pour ça que tu as des versions des musiques qui sont différentes d'un pays à l'autre, enfin de la version japonaise et de la version française par exemple, parce qu'il n'a pas forcément donné les droits pour telle ou telle version.
Tout à fait, donc voilà, c'est des œuvres qui sont complexes. Et qui malheureusement parfois ont des gestions de droits qui sont également complexes. J'avais croisé quelqu'un de chez Ubisoft avec qui j'en avais parlé brièvement, mais en gros ce qu'il me disait c'est basiquement il faut que tout soit absolument blindé pour que si Ubisoft a envie de faire un remake de tel jeu 20 ans après, il soit capable d'aller redemander les droits à tout le monde sans que ça pose de problème.
Et c'est aussi pour ça qu'il y a des jeux de merde sur la PlayStation Mini, parce que Sony, ils ont perdu les droits de certaines musiques ou de trucs comme ça, et impossible de ressortir le jeu.
C'est vrai qu'il y a aussi les histoires de musique, mais c'est un cas intéressant la fermeture du PlayStation pour la PS3, du PSN, parce qu'on est dans un cas où, comme on disait, voilà, il y a des DLC, il y a des patchs de jeux, donc parfois ces DLC n'existent pas dans des versions physiques, il n'y a pas une version Game of the Year du jeu.
Du coup, acheter en physique, oui, mais bof.
Bah, en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver effectivement dans un cas où une grosse partie du store n'est pas récupérable, et même des bouts de jeu ne seront plus accessibles, alors qu'il existe des versions physiques, et c'est pas quelque chose qu'on avait sur Wii, parce que le WiiWare, c'était que des jeux à part, et c'est pas trop quelque chose qu'on a sur Xbox de mémoire, parce qu'il y a une rétrocompatibilité qui est assez forte à l'heure actuelle, alors pas pour tout.
Mais pas pour tout, mais je suis d'accord avec toi, il y a un vrai problème, c'est que sur certains jeux... PS3, Xbox 360, enfin de cette époque-là, le jeu que tu as sur la galette n'est pas jouable en l'état, au sens où le patch Day One qui sort...
C'est le cas actuellement, regarde Cyberpunk.
Oui, voilà, non mais c'est exactement ça, le jour où... mais je sais plus, il y avait un exemple de jeu comme ça, où effectivement, le patch Day One, il est pas énorme, hein, c'est un truc qui fait 200 mégas, mais ça corrige un bug critique qui fait que tu pouvais pas finir le jeu. Il y a quelques jeux sur PS3 comme ça, pas tous, évidemment, heureusement, mais il y en a quelques-uns. Effectivement, ça va être très compliqué d'aller récupérer tout ça.
Aussi, la période PS3 et Xbox 360, et surtout pour les PSP, c'est une explosion des endettes. Pour le coup, on n'a pas les structures de sauvegarde. Ouais,
c'est là où on commence enfin à parler des endettes, en fait. Parce qu'avant, ils existaient, mais...
Après, il y a souvent, en ce qui concerne les AD, il y a très souvent une version PC qui existe.
Oui, qui est parfois plus facile à maintenir. Je mets des gros guillemets, mais à récupérer, effectivement, à faire vivre dans le temps.
Bah, suffit qu'il y ait une version GOG, et en fait, trouver un exe exécutable sans DRM, c'est très facile, quoi.
GOG, c'est Good Old Games, c'est un Méduse. Oui,
mais par exemple, hein, pour la PS, pour l'exemple de la PS Vita, qui était quand même, enfin, sur ce point-là, qui était un peu similaire à la Switch, dans le sens où c'était une console portable avec énormément de hitter day. Je pense notamment à Isaac, The Mining of Isaac de Macmillan, jeu d'une vie, qui était sorti sur Vita. Si le store il est plus là, heureusement qu'il y a les pirates, parce que bah, la version Vita, elle serait disparue à jamais.
Oui, par contre, ça, c'est... Les versions spécifiques, ça va être compliqué.
Effectivement. Je vais terminer par In Other News. Juste un tout petit peu d'autopromo. Il y a notre camarade Tardy qui est en train de faire toute une série de petits articles sur des jeux Satellaview.
C'est ouf, ça. C'est incroyable.
Exactement, c'est absolument incroyable. Alors, si vous ne connaissez pas le Satellaview, c'est l'extension de la Super Nintendo que nous n'avons pas eue en Occident, qui est restée exclusivement japonaise et qui permettait, en fait, de télécharger des jeux par satellite, puisque Internet existait mais était trop balbutiant.
Le turfu des années 90.
C'est ça, c'est le turfu des années 90. Donc tu branchais ta Super Nintendo à ton décodeur CanalSat.
Et tu chopais le nuage.
Et tu chopais le nuage pour de vrai. Et tu récupérais des jeux que tu... Je crois qu'il y avait un abonnement mensuel. Et donc ces jeux-là, il y en a quelques-uns qui sont perdus. Parler de préservation, il y a quelques-uns de ces jeux qui sont perdus. Mais la plupart se téléchargeaient sur une espèce de petite cartouche flash qui se mettait dans une grosse cartouche qui se mettait dans la Super NES. Donc il y en a beaucoup qui ont pu être dumpés. Et donc on peut y rejouer aujourd'hui, sachant qu'il manque quand même la partie interactive, puisque la plupart de ces jeux profitaient d'un système qui s'appelait SoundLink, et qui permettait d'avoir, en fait, quand tu jouais à certaines heures, d'avoir des commentaires audio ou de la musique qui était diffusée en direct par satellite.
Ah, la musique, ça devait être génial, quoi.
T'avais carrément du doublage sur certaines scènes, dans certains jeux.
Oui. Oui, et qui arrivait qui était streamé, entre guillemets, depuis un satellite. Enfin, c'est assez ouf quand tu
réfléchis à ça. Ce qui est assez fou sur Super Nintendo, parce que je pense que sur console, si tu voulais des trucs doublés à l'époque, t'avais peut-être la PC Engine.
Ouais.
Ou la Neo Geo, mais sur Super Nintendo, tu peux oublier.
Si, t'as la Mega CD, quoi.
Ouais.
T'en avais quelques-uns, mais si, voilà, t'avais pas de support CD, t'avais pas de voix. Très peu. Bref, donc voilà, il y a une belle série. J'ai pondu moi-même, à titre personnel, un petit article sur BioShock. Donc c'est le quart d'heure, voilà. Et nous avons un nouveau Switch, et non pas une nouvelle Switch, hein, un nouveau Switch. Puisque les serveurs du dojo sont maintenant reliés à un magnifique Mikrotik CRS328 4S2M.
À tes souhaits.
Voilà.
Tu régales, là.
Hein. Ah non, mais là, c'est la fête. Et donc, le dernier petit truc...
C'était pas Pokémon Trash ?
Si, c'est Pokémon Trash. Donc on est très très triste de savoir que Pokémon Trash a perdu... une très grande partie de ces données, si ce n'est toutes ces données, dans l'incendie d'OVH Cloud. Donc, visiblement, ils ont perdu quelques mois, voire quelques années de...
Bah, ils arrivent
le
à
message
arriver
de harcèlement
à récupérer...
sur le forum.
T'es con. Non, mais ils avaient une base de données qui était assez dingue, qu'ils ont construit au fil des années. Ils arrivent à en récupérer une partie à droite à gauche, mais bon, il y aura des pertes, quoi. Donc, bah, c'est très très con pour eux.
C'est très con et très triste pour eux. Ça nous rappelle tous que les sauvegardes, c'est important.
C'est bien ce dont on parlait juste à l'instant.
Voilà, et le cloud, c'est pas magique. Donc voilà.
Bah, le cloud, ça reste du physique. Maintenant, ça a oublié.
Tout à fait. Bah, c'est-à-dire qu'on te vend de l'automagique, mais je peux vous garantir pour y travailler partiellement depuis un certain temps, ça n'a rien de magique. Hein. Je veux dire, c'est des vrais serveurs dans des vraies salles machines qui peuvent vraiment prendre feu. Donc voilà, bref, on va marquer une première petite coupure avant de parler de Little Nightmares 2, et on va donc s'écouter un petit morceau de la bande originale de Little Nightmares 2. J'ai fait très simple, j'ai pris l'écran, le thème de l'écran titre, qui est en fait le thème principal, c'est la petite mélodie qu'on retrouve tout au long du premier et du second jeu, qui a été là remanié plusieurs fois. Et donc c'est composé par un monsieur qui s'appelle, je vais déchirer son nom de famille, hein, je vous le dis tout de suite, ça c'est mort... Tobias Liljá, qui est donc un Suédois.
Ça va, c'était pas...
Ça s'est bien passé.
Ouais. Ouais, mais je pense que ça se prononce pas comme ça.
Pas possible.
Ou alors il a vraiment le nom d'un tabouret Ikea, c'est possible.
Ça fait plus un nom de rappeur, Liljá.
Peut-être, oui.
C'est vrai.
L'île japonaise. Ouais, c'est petit japonais, comme on l'appelle dans le jargon.
Oh mon dieu.
Voilà, c'était la blague raciste.
Mon dieu, c'est obligatoire.
Voilà, donc ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes et demie. On se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et normalement, avec le décalage, tu as dû entendre le jingle.
Ah oui, je l'ai entendu, c'était incroyable.
Ouais, c'est incroyable, ce nouveau jingle est incroyable.
Putain, le coup.
Pourquoi elle l'a pas mis avant, quoi?
Parce que j'y ai pas pensé tout à l'heure. Voilà, c'est juste ça, j'y ai pensé tout à l'heure, donc je me suis dit, bon, bah, il faut le faire maintenant.
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc c'est incroyable. Bref. Donc nous allons parler de Little Nightmares 2, je vais faire un tout petit rappel sur le 1. Alors le 1, on en avait... je crois pas qu'on en avait parlé dans un dojo bar.
J'ai dû l'évoquer dans un, récapitulatif dojo auquel on a joué, parce qu'on n'avait pas d'idée de scénario.
C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ce que je sais, c'est qu'il y a j'avais fait un petit texte pour expliquer pourquoi c'était bien et qu'il fallait y jouer. Là pour celui-ci, alors le petit texte, il est en préparation, c'est pas encore fini, je suis désolé, j'ai eu un petit peu de mal sur la mise en page et 2-3 autres bricoles. Et puis, il y a 2-3 idées que j'arrive pas à enchaîner sans trop spoiler, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans le 2 qui mériteraient vraiment de ne pas être spoilées. Voilà, Monsieur Mecton a fait un déboîtage de l'édition Collector.
Ouais, faut qu'on le publie. Ouais.
Qu'on publiera dans la foulée, mais voilà, du coup, en attendant, on parle un petit peu du jeu. Le Little Nightmares. Il a déboxé une édition collector, tout à fait.
Ouais, on dit déboîté.
On dit déboîté, madame. Quand même. Un petit peu de respect pour l'artiste. Hein, voilà. Bref. Donc, on a eu un petit coup de Little Nightmares. Donc, Little Nightmares, ça raconte l'histoire de 6. Alors, c'est marrant d'ailleurs parce qu'elle est nommée en dehors du jeu, elle n'est jamais nommée dans le jeu.
Ah, c'est quoi, ils sont pas 6, elle s'appelle 6.
Elle s'appelle 6, ouais.
Elle s'appelle 6. Alors, elle ou il d'ailleurs, mais au départ, c'est pas hyper clair.
Alors, d'après la préquelle, parce que sachez qu'il existe un Very Little Nightmare sur téléphone portable qui est canon et qui se passe avant tout ça, 6 est une fille.
D'accord, ça se tient. Donc, c'est une fille qui est donc un tout petit être, en fait, qui vit dans une espèce de monde de géants. De géants effrayants parce qu'ils sont tous. Très gros, très difformes, ils sont vraiment très très grands, je veux dire, comparativement ils font 5 fois ta taille en gros.
Oui, alors c'est pas de la grossophobie ou de la grandophobie, mais ils sont dégueulasses, quoi.
Ils sont dégueulasses dans le 1, en tout cas ils sont dégueulasses, et donc on traverse ces décors qui sont dont la taille est adaptée finalement à ces géants, et toi tu es tout petit et tu es vraiment obligé de te cacher pour pas te faire écraser, pour pas te faire bouffer, pour pas te faire découper, enfin c'est vraiment pour pas te faire attraper, c'est un thème assez lourd, et l'idée c'est de traverser des décors, comme son nom l'indique, cauchemardesques. Donc la cuisine dégueulasse avec un boucher qui découpe des trucs, tu sais vraiment pas ce que c'est, mais t'as pas envie de savoir. C'est pas de la morto, a priori. Hein. En tout cas, s'il y a ça que ça ressemble à morto, je ne suis pas d'accord.
Mon dieu.
Bref, donc c'est des trucs absolument ignobles. Et donc le premier jeu se passait à bord d'un bateau qui s'appelle je sais plus comment d'ailleurs.
Bah, le bateau.
Non, il porte un vrai nom. C'est... Je me demande s'il s'appelle pas le crépuscule ou un truc comme ça.
Ah, j'ai pas fait gaffe. Mais je me rappelle qu'il y a un moment, il y a une espèce de plan où la caméra s'écarte. Peut-être qu'on voit le nom du bateau à ce moment-là.
C'est ça, il y a un truc là-dessus. Donc on traverse un bateau. Donc on traverse les cales, les différents niveaux. Il y a un niveau où il y a que des poubelles. Enfin, il y a des bagages, il y a des cages avec des animaux. Et évidemment, vous pouvez imaginer que les animaux vont tous essayer de vous niaquer. Enfin, c'est assez horrible. Et donc, Monsieur Mecton ne l'a pas fini. Je ne le divulgacherai pas ici. Mais la fin est. Alors. On s'y attend un tout petit peu. je l'avais senti un tout petit peu venir, mais j'ai quand même été surpris. La fin est particulièrement particulièrement ignoble.
Je sais pas, parce qu'il y a... Ça fait partie du cinématique platformer, donc des jeux à la Limbo Inside, où t'as... Donc c'est un jeu de plateforme à énigmes, et t'as des éléments de scénario, mais qui sont racontés juste à travers le gameplay. Juste à travers le va à droite, et on va te raconter une histoire.
Ou le décor.
Ou le décor, tout à fait.
Il y a énormément de choses racontées dans le décor.
Ou justement les petites scènes, et là je vois à quoi tu penses, ces petits êtres auxquels tu peux faire un câlin, de temps en temps il se passe un truc, et je pense que la fin va me coucher, quoi.
Ah, je pense que la fin va te. Mais tu, en fait, tu t'attends à ce qu'il se passe un truc comme ça. Donc tu t'attends à ce que Sis fasse quelque chose qu'elle a déjà fait dans le jeu. Le moment où ça va arriver et la victime, entre guillemets.
Ah, je vois, ça, je sais pas à qui elle va le faire, mais putain. Okay.
Ça va te défoncer le cerveau, je te le garantis. Hein. Ça va te défoncer le cerveau. Bref. Donc Little Nightmares 2. Suit un autre personnage qui s'appelle Mono, qui est lui donc un petit garçon qu'on avait déjà aperçu, il me semble, dans Little Nightmares 1, qui a la particularité de porter un sac en papier sur la tête. Ce qui est assez
bizarre. J'allais dire le mec avec une tête carrée.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, il a juste un sac en papier sur la tête. Et ce qui est bien, c'est que le jeu, il n'y a aucune parole. Jamais. C'est vraiment. La narration se fait intégralement par le décor.
Et aucun texte.
Aucun texte. Aucun doublage. À part les cris et les grognements et les craquements d'os, en gros.
Ah, sympa votre jeu.
Ah ouais, non, c'est l'ambiance est bonne. Hein.
C'est de très gauche bon. À droite, il n'y a pas de doublage, ça fait peur, et quand tu perds, il y a un gars qui débarque chez toi.
Ah ouais.
Énorme.
Attends, le jeu m'a legit fait peur, je vous l'avais envoyé en off. Le jeu m'a legit fait peur un moment parce qu'en fait j'avais pas fait attention, il y a un des personnages, c'est un des premiers décors qu'on traverse. En fait on traverse d'abord une forêt en gros, une forêt, des maisons dans les bois.
Oui, ça c'est le niveau de la démo d'ailleurs.
C'est ça, c'est le niveau de la démo et puis ça dure une grosse demi-heure, je crois que la démo dure juste un quart d'heure, enfin elle dure un petit peu moins longtemps que ça, donc ce niveau est un petit peu plus long. Il y a pas mal de pièges intéressants, il y a pas mal de façons très très horribles de mourir, encore une fois, parce que c'est un peu dans l'habitude du truc. Et ensuite on arrive à l'école.
Quel con, je me suis baissé. Pardon.
Bah, l'école en ce moment, effectivement, c'est un petit peu un petit cauchemar avec le protocole. Hein.
C'est un peu ça, mais si tu veux, c'est, ça explore encore une fois des cauchemars ou des peurs infantiles assez fréquente finalement, la peur du noir, la peur de se retrouver tout seul en forêt, la peur d'être perdu, la peur de l'école.
La peur de mon oncle, par exemple.
Non, ça, celui-là, non.
dans le 1, un petit peu, mais bon.
Il y en a un peu, mais pas tant que ça. Ensuite, tu traverses un hôpital. Donc, je vous laisse imaginer que c'est pareil. En ce moment, les hôpitaux, c'est un peu la merde.
Il y a des piqûres partout.
Non, alors il y a des, c'est les personnages du premier étaient vraiment des personnages qui étaient mais obèses de manière très malsaine en fait, avec des bourrelets partout, enfin vraiment des personnages horriblement déformés par leur propre obésité. Là, la plupart des personnages sont extrêmement maigres et ce sont surtout des mannequins ou des poupées de chiffon, mais animés, c'est-à-dire qu'ils sont vivants. Ce qui est un peu perturbant aussi. Et il y a plein de symboliques qu'on retrouve derrière qui sont super intéressantes. C'est-à-dire qu'on peut interpréter beaucoup de choses, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ça laisse énormément de place à l'imagination. Alors évidemment, c'est une imagination. C'est un peu Tim Burton rencontre Lovecraft un mauvais jour.
Ouais.
Parce que c'est quand même à peu près ça. Hein. C'est jamais gore, sauf... Il y a quelques passages du 1 qui l'étaient un petit peu, notamment où le boucher...
Vite fait. Non, le boucher, c'est... C'est gore, mais à la Jeunet Carreau, quoi. C'est gore à la délicatessène.
Moi, ça m'a beaucoup rappelé la Cité des Enfants Perdus. On en parlait un petit peu en off. Et c'est vrai que c'est exactement cette ambiance-là.
Mmh. Vraiment l'ambiance poissarde, vicieuse, cauchemar viscéral, quoi.
C'est ça. Et puis, tu sais, le truc de la Cité des Enfants Perdus, où tous les personnages, t'as l'impression, sont crades, sont transpirants.
C'est ça, ouais.
Voilà, avec
Sointant.
C'est ça, tout est suintant, tout est moite, tout est crado. Enfin, c'est exactement ce genre d'ambiance-là, et je trouve, et même au niveau de la musique, puisqu'il y a ce thème qu'on a écouté avec ces 4 ou 5 notes qui sont très importantes pour Little Nightmares 2, qui étaient très importantes pour Little Nightmares 1 aussi. Donc voilà, c'est toute cette ambiance-là. Et ce qui est vachement intéressant, je te dis, c'est que voilà, ça laisse beaucoup de place à l'imagination, et notamment, il y a un truc dont on se rend compte. Donc, le personnage principal, Mono, a un sac en papier sur la tête. On peut récupérer plein d'autres chapeaux, donc on n'est pas obligé de jouer avec le sac en papier sur la tête, hein, c'est pas obligatoire. Mais il y a quelques autres personnages qui ont un sac en papier sur la tête, et ceux qui n'en ont pas ont une autre particularité, que je tairai ici, parce que je vous laisse... Mais voilà, si vous jouez au jeu, regardez bien qui a un sac en papier sur la tête, qui n'en a pas, et ça vous donnera une bonne idée de qui est une menace et qui n'en est pas une. Plein de choses très intéressantes là-dessus. Pareil, je mentionne juste un détail, mais qui est assez rigolo. Donc, un moment, on traverse une école. Donc, il y a la prof qui est horrible. C'est assez cauchemardesque. C'est l'école dans laquelle t'as pas envie d'aller. Et en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que tous les élèves de l'école sont donc des espèces de mannequins articulés, mais dont la tête est en porcelaine et elle est vide. Et je trouve ça intéressant parce que c'est l'école n'est pas là pour remplir la tête des enfants, ouais. Elle est là pour vider la tête des enfants. Et t'as tout un tas de symboliques comme ça dans Little Nightmares 2, quand on creuse un tout petit peu le deuxième ou troisième niveau de lecture, c'est vachement intéressant. Voilà. Le tout dernier niveau est un niveau qui se passe dans une ville, je vous en dirai pas plus que ça parce que ce serait très 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 dommage de gâcher ça, c'est un très très beau niveau. Et la fin m'a encore plus défoncé que la fin du premier, qui pourtant était déjà bien prenante. Là, la fin du deuxième, on s'y attend absolument pas. Et c'est assez exceptionnel. Vous savez que même moi, je me suis fait prendre au dépourvu. Je me suis dit, ah oui, ok. Donc, moi, je vous le conseille. En tout cas, c'est vraiment un chouette jeu.
Il n'est pas très cher en physique.
En physique, il a une trentaine d'euros, le premier comme le deuxième. Méfiez-vous, sur le premier, il y a une version code de téléchargement uniquement.
Donc, une version quoi, pardon ?
Il y a une version code de téléchargement uniquement.
Ah, c'est con. Non, il y a une cartouche dans la mienne.
Il y a une vraie version avec une cartouche. Alors, le défaut du 1...
Oui, putain. Alors, c'est ce qui fait que je galère à le finir. Quand tu crèves, il faut bien compter 40 secondes de chargement pour que tu puisses retenter ta chance.
Ça, c'est chaud, ça, non ?
Alors...
Oui, surtout que tu crèves souvent, en fait.
Voilà, c'est un jeu à bière.
C'est ce que j'allais demander.
C'est un jeu à bière, effectivement. Tu crèves assez souvent parce que tu...
Il y a certains passages, ouais, où tu y vas à tâtons.
C'est ça, en fait.
Pour comprendre comment marche le piège, voilà.
T'as un enchaînement parfois assez précis de commandes à faire où il faut porter un objet, le jeter à un certain endroit, ressauter dans un autre coin, activer une manivelle, passer derrière un ennemi. Je mets des gros guillemets, c'est pas vraiment des ennemis, mais...
Ah, c'est des pièges.
Ouais. C'est plus du piège. Du piège animé. Bref. Donc oui, c'est un peu lourd. Alors dans le 2, ce défaut-là, il n'existe plus du tout. C'est-à-dire que là, maintenant, quand on meurt, on redémarre quasi immédiatement.
Ah, ça, c'est chouette. Ouais.
Et ça, c'est chouette. Ce 2 a aussi une autre petite particularité, et là je pense que c'est plutôt un raté de la part de Tarsier Studio, donc le studio suédois qui fait ce jeu-là. Y a un deuxième personnage, c'est-à-dire que Mono finit par récupérer un deuxième personnage, je ne vous dirai pas qui c'est, mais vous la connaissez déjà.
Sûrement Stéréo.
Probablement. Il y a Surand dans le dernier niveau. Je pense qu'on est drôle.
Quel humour.
Bon, bref, non mais je vous cache pas, on récupère 6. C'était plus ou moins annoncé dans les. Enfin voilà, le trailer du jeu le dit clairement.
Hey, Georgie.
Sauf que on le récupère pas. Enfin, c'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant. Mais bref, donc vous récupérez un deuxième personnage et je trouve ça dommage parce qu'il y a une grande partie du jeu qui est faite en coop avec une IA et je me demande bien pourquoi ils ont pas fait ça en coop avec un deuxième joueur. Parce que ça aurait vraiment rendu le truc intéressant pour certains.
Il n'y a pas de mode de joueur,
passages.
Du coup.
Non, il n'y a pas de mode de joueur, et c'est un peu dommage.
Ok. Donc c'est une IA ou ton compagnon, c'est un objet, c'est ça ?
Alors, ton compagnon, c'est vraiment une IA, mais qui est plutôt intelligente, puisque finalement, il te montre là où il faut aller.
Ah,
il te fait la courte échelle, enfin, c'est des trucs comme ça. Il y a des énigmes que tu peux résoudre qu'avec lui, mais il est suffisamment intelligent pour toujours se placer au bon endroit.
Ok, j'aime bien.
Donc c'est pas un boulet, ce qui est déjà pas mal.
Oui, tout à fait.
On a connu des boulets dans des missions d'escorte, hein, n'est-ce pas ? Oui, je te regarde, Resident Evil 5.
Oh, le 4 aussi.
4, hein. Le 4 surtout.
Le 4 ?
Ah non, mais le 5 c'est pire, alors. Parce que le 5, elle bousille tes munitions, la conne.
Bah oui.
Bah, l'avantage du 5, c'est que tu peux avoir un deuxième joueur pour compenser la nullité de l'IA.
Alors, le 5, tu peux brancher une deuxième manette, la poser par terre et faire le jeu.
Oh putain.
Alors, moi, du coup, j'ai une question par rapport à Little Nightmare, parce qu'on a, plus ou moins, c'est plus ou moins dit que c'était un puzzle platformer, un petit peu à la Limbo et à la Inside.
Un cinématique platformer, ça s'appelle.
Wow. Cinématique puzzle platformer, t'as quand même des puzzles.
Oui. Et du coup, moi, la question que je me posais, c'est si on a déjà fait Limbo ou Inside, qu'est-ce que Little Nightmare en fait apporte de plus en termes de gameplay ?
Une autre histoire, une autre ambiance, des autres mécaniques, alors qu'ils sont basés sur la physique aussi, mais pas que. Enfin, physique et réflexe, mais enfin, Mortal, coupe-moi si t'as un avis différent. Mais je trouve que par rapport à Limbo et Inside, tu as plus d'interprétation, enfin, t'as plus d'histoire qui t'est projetée. Alors, elle est pas limpide et claire, c'est à toi de l'interpréter, mais tu as plus de matière à interpréter.
Ah, c'est vrai que pour le coup, Limbo, l'histoire a été assez. Moi, je fais que Limbo, j'ai pas fait Inside, mais c'est vrai que cette histoire de Limbo est pas trop ce qui se passe, quoi.
Inside c'est très très critique et pour le coup même la fin je dirais pas en quoi elle consiste parce que je n'en ai aucune.
La fin de Inside on en parle encore aujourd'hui hein.
Mais là non, je trouve que le jeu a pas un scénario bien défini où on te dit bah il se passe ça, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est justement de faire comme ce que je vous ai dit avant, les enfants dans l'école qui ont la tête vide. C'est ça, en fait, c'est d'aller donner, d'aller raconter tout un tas de petites choses à travers le décor qu'on peut interpréter très librement, même s'il y a des...
JBC dit par rapport à Limbo Inside, il y a des couleurs.
Alors oui, il y a des énigmes intéressantes parce que il y a beaucoup d'énigmes basées sur la physique mais qui sont relativement intéressantes parce que généralement elles ne requièrent pas de réflexes. Moi, je pense qu'il faut plus le voir comme une espèce de comme une espèce d'attraction avec des animatroniques. Mais qui serait hyper effrayant. Voilà, faut voir ça comme une espèce de train fantôme interactif. Et de ce point de vue-là, je trouve ça très réussi. Et encore une fois, tout ce qui est élément narratif, en fait, ça brasse beaucoup de choses. Il y a un vrai fil rouge de trame de quelque chose qui se passe à un moment du jeu que je vous spoilerai pas ici parce que vraiment, ce serait vraiment dommage que vous le découvriez pas par vous-même en faisant le jeu. Alors si vous voulez vous spoiler, vous pouvez aller regarder. Le jeu dure à peu près 4-5 heures. Le premier durait 2-3 heures. Celui-là dure plus aux alentours de 4h30-5 heures.
Ok, bah je dois être mauvais là. Je suis à 3 heures, je t'ai dit en off. Hein. Je suis à la fin ?
T'es okay. À la fin. T'es quasiment
là où
à la
j'en
fin.
Étais, ouais. Ok.
Non, t'es quasiment à la fin. Il reste vraiment pas grand-chose.
Ok.
Voilà. Non, là, le jeu dure un peu plus longtemps et surtout, il y a comment ? Il y a des couleurs, il y a des moments complètement éthérés qui sortent d'absolument nulle part, où tu te retrouves dans un truc où tout d'un coup tu plonges finalement d'un cauchemar à un autre sans vraiment te rendre compte pourquoi ni comment. Et puis pouf, t'as un élément qui arrive dans le décor qui fait que tout devient clair et tu continues ta progression. Je trouve que c'est peut-être mieux raconté qu'un Limbo, qui est voilà beaucoup plus vraiment un puzzle platformer qui éventuellement essaye d'avoir une ambiance un peu, on va dire, glauque, sombre et tout ça.
Limbo, il y a un côté un peu court-métrage d'horreur étudiant, dans le sens où ça se veut pas vraiment, ça veut pas vraiment raconter une histoire, mais plutôt raconter une ambiance, je trouve.
Alors que là, ça cherche à raconter des choses, mais jamais très explicitement. Donc t'as le droit de l'interpréter comme tu veux. Et je trouve que c'est intéressant. Il y a vraiment des choses que tu peux interpréter vraiment comme tu veux. Il y a un moment dans l'école, il y a un gamin qui est en train de dessiner à la craie sur le tableau, un symbole. Tu peux le voir de plein de manières différentes. Moi, au moment où je suis arrivé à cet endroit-là, je l'ai vu d'une certaine manière. Une fois que tu as fini le jeu, tu le vois d'une toute autre manière. Et c'est intéressant, justement, c'est presque le genre de jeu qui mériterait d'être refait pour revoir les détails qui te permettraient de mieux comprendre pourquoi la fin est comme ça. Donc tu veux, c'est pas le cas de Limbo, où finalement, quand t'as fini le jeu, moi, pas donné envie de recommencer en fait. Voilà. Alors que là, j'avais vraiment envie de recommencer juste pour essayer de voir tous les détails, essayer de rassembler les morceaux du puzzle qu'on te dévoile avec la révélation qu'on te fait à la toute fin. Donc, non, il dessine pas un zizi. Je réponds tout de suite, il dessine pas un zizi. Je vous expliquerai éventuellement off si ça vous intéresse, même si je vais essayer de garder un petit peu de mystère pour Mecton, parce que quand même.
Non, mais vas-y. Mon backlog est tellement énorme que.
C'est pas très grave.
Mais je le ferai avec plaisir, parce que le premier, je te dis, c'est vraiment ce défaut de temps de chargement qui est frustrant. Mais c'est vrai, sur la démo du 2, j'ai pas percuté sur le moment, que quand tu crèves, tu repopes tout de suite.
C'est pas immédiat, mais c'est vraiment 2-3 secondes. Enfin, c'est, pas...
voilà, ouais. C'est tout à fait acceptable, quoi. Ouais, ouais.
C'est exactement ça. Bref, donc.
Et est-ce qu'il est joli?
Il est très joli. Et,
ah, c'est très beau. C'est très beau.
Il y a un
truc
dont je voulais parler qui est très particulier. Donc, dans le 1 que tu as fait, Mecton, il y a un truc particulier, c'est que 6 a un manteau jaune.
Hé, hey, Georgie!
Exactement. Alors, c'est peut-être une référence à ça. Mais ce que je pense surtout, c'est que c'est une manière pour que le personnage soit hyper visible dans le décor.
C'est vrai.
Et c'est très malin, ça marche. Là, sur Little Nightmares 2, donc, le personnage est sombre, en fait, comme le reste du décor. Mais il se détache encore très 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 bien, parce que le studio Tarsier a fait un boulot exceptionnel sur tout ce qui est éclairage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un éclairage du décor qui est frontal, et il y a un éclairage par le dessus qui prend juste le personnage, du coup, ses contours se dessinent parfaitement.
Le Coulterson, parfait.
Exactement.
Parfait.
Et c'est un boulot exceptionnel parce que j'en ai parlé à quelqu'un qui a fait de la photographie et qui m'a dit que les mecs maîtrisaient vraiment leur sujet parce que c'est pas évident du tout à faire en cinéma, en télévision ou en photo, c'est vraiment
en
très difficile
tout,
à faire.
La lumière, c'est horrible. Ouais, ouais.
Et je pense qu'en jeu vidéo, ça doit être le cauchemar pour arriver à faire un truc consistant sur tout le jeu.
Bah, tu as une source de lumière en plus à gérer, donc c'est compliqué.
Et dynamique puisque le joueur bouge avec. Et ils ont géré ça particulièrement bien. Et en plus, ça accentue l'effet gigantesque des décors. Et donc, c'est vraiment hyper réussi. Là-dessus, les mecs, c'est un coup de chapeau phénoménal. C'est... voilà. Monsieur que je connais qui fait de la photographie m'a dit, c'est... je connais des photographes qui ont 20 ans de métier qui arrivent toujours pas à faire ça correctement. Donc là, les mecs sont arrivés à faire ça en dynamique sur un jeu. Ok, je pense qu'on peut, on peut applaudir. Pas de problème. Voilà. C'était mon petit résumé de Little Nightmares 2. Il y aura un petit texte qui accompagnera ça, qui expliquera peut-être d'autres choses, parce que je pense qu'il y a d'autres choses à en dire. En attendant, on va se faire une petite pause musicale avant d'aborder la toute dernière partie de l'émission. Et donc, on va écouter un petit morceau de la bande originale de Bravely Default 2, puisqu'après la pause, nous parlons de Bravely Default 2, bande originale qui a été composée par Yo... Alors, attends.
Revo.
Yasuo Kanagawa.
Revo, ouais. T'embête pas.
Fais-toi pas chier, Revo.
Mais de son vrai nom, Yasuo Kamanaka. Et j'ai choisi, et je pense que Mecton approuvera, le thème des batailles.
Mais n'importe quel titre que tu aurais chopé dans la BO, j'aurais approuvé. Elle est trop bien.
Elle est très très bien cette BO. Je l'ai écoutée pas tout à fait en entier parce que j'ai pas eu le temps, mais j'en ai écouté une bonne partie. Et je trouve que ce thème de bataille fait très très Final Fantasy.
Ah oui,
mais
c'est pas étonnant.
Hein. J'en parlerai après. Mais
on en parlera après.
Oui, oui.
On en parlera après, y a pas de problème. Voilà, donc nous allons nous écouter. Le thème des batailles de Bravely Default 2, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Voilà. Et donc on va parler de Bravely Default 2. Je vais donc laisser quasi exclusivement la main à Monsieur Mecton.
Allons-y doucement, rebondissez un petit peu quand même.
T'inquiète pas, on va te poser des questions. Je pense que Monsieur Antix aura beaucoup de. Enfin, quelques questions à te poser. Moi je vais juste te guider gentiment. Mm-hmm. Tu peux reprendre une bière. C'est autorisé.
C'est autorisé.
Donc tu nous avais fait une petite trame générale en disant faut commencer par parler du scénario.
Oui, alors le scénario c'est quelque chose qu'on peut évacuer rapidement. Alors Bravely Default 2, je spoil ma conclusion tout de suite, si vous êtes en mal de RPG à l'ancienne, vous avez envie de vous faire un petit kiff rétro modernisé, c'est parfait.
Comme le 1 non du coup, enfin c'était le trip du 1, c'était ça aussi. Hein.
C'est, bah, voilà, c'est un peu un retour à l'ancienne dans des mécaniques mais qui sont modernisées et dans le scénar qui, alors du coup le scénar de Bravely Default 2 est très pur quoi, droit au but et simple.
Celui du premier aussi avec des twists peut-être un petit peu modernes et un twist malheureux aussi
le coup des boucles, c'est ça.
Ouais, c'était un peu le plus gros défaut du jeu.
Ouais.
Enfin, le premier c'est un jeu 3DS qui pour le coup faisait très bien sa promesse, c'est-à-dire un jeu à l'ancienne basé sur les FF Super Nintendo. Parce que notamment avec le système de job, je pense qu'on en reparlera de toute façon.
Oui, bah ça va être la même chose. Hein, oui. Et enfin, la même chose a évolué, mais.
Mais c'est un jeu qui a été très apprécié à sa sortie, jusqu'à ce que les gens découvrent ce qui se passe à partir du chapitre 5, c'est-à-dire qu'en fait le jeu boucle sur lui-même, et tu te retrouves 4 chapitres pendant, je dirais, 10, 15 heures, voire 20 heures, à refaire ce que tu avais déjà fait dans les 4 premiers chapitres du jeu, mais 4 fois.
Alors, on peut évacuer enfin, crever l'abcès tout de suite. Pour moi, il y a une toute petite boucle à la fin du chapitre 4 où en fait le scénario va arriver à un certain point qui va te demander de revisiter les villes que tu as déjà visitées, mais c'est pas pour refaire la même chose, c'est pour voir ce qu'elles sont devenues et faire avancer l'histoire un cran plus loin. Donc il y a voilà, il y a cette histoire simple qui est très bien quoi, qui est très droite au but.
Est-ce qu'il y a des twists méta comme dans le premier?
Alors, méta, non, mais il y a un twist. Il y a un twist à la fin du chapitre 3 où c'est vraiment là pour moi où le scénario décolle, quoi. Le scénario décolle et qui m'a pris au trip. Je crois que je vous ai spammé comme pas possible sur le sujet.
Je confirme.
Pour moi, c'est le moment où le scénario décolle et où t'as envie d'aller péter des gueules, quoi. Avant, tu fais de l'alimentaire et arrivé au chapitre 3, tu fais d'accord, tu m'as eu, enfin sur moi ça a marché, maintenant ça va chier.
D'accord, ça me va très bien ça, tiens. Ça te donne envie d'aller péter des gueules, et puis ouais. Pas qu'un peu.
Et non, parce qu'au départ, en fait, c'est vraiment classique. C'est alors tu joues un.
Est-ce que tu es amnésique et que tu es le monstre de la forêt?
Comme d'habitude.
Alors si tu es amnésique, tu débarques sur une plage, pour le coup c'est le monstre de la plage.
Mon dieu.
Tu joues en fait le seul, enfin tu joues. Tu dois nommer le seul personnage que tu peux nommer.
Et tu nommes l'île aussi, elle s'appelle Clichéland.
Non. Non, bah le monde qui, comme sur le premier, c'est un monde assez restreint. Il n'y a pas beaucoup de villes et de villages. C'est un monde assez restreint. Je crois qu'ils font une petite blague là-dessus à un moment. Dans un dialogue.
Le premier, il y avait genre 5 régions avec un village par région et 5 donjons.
C'est ça. Et je crois qu'ils font une petite blague à un moment dans une quête secondaire. Ils font un. Ouais, putain, mais tu nous demandes d'aller faire le tour du monde. Et t'as un autre personnage qui fait. Non, mais ça va aller vite. Ah, voilà. Donc tu joues à héros amnésique. Tu vas être très rapidement rejoint par 3 autres héros qui sont nommés. Et bon, il y a un délire de. C'est un monde où il y a des cristaux, feu, vent.
Ouais, il y a encore une histoire de Vestal, si j'ai bien compris, comme dans le premier.
C'est ça, de héros de la lumière qui vont devoir faire un truc.
Ah, c'est Gloria cette fois l'héroïne, il me semble son nom.
Alors, pour moi, ils sont tous complémentaires.
Oui, non, ce que je veux dire, c'est la Vestale, pardon.
Non.
Yep. Ok.
Ils le sont tous, en fait. Alors, on parlait de FF tout à l'heure, le lien avec FF, il est immédiat. T'as ta potion, éther, queue de phénix.
Bah, les cristaux, hein, déjà de base.
Cristaux et héros de la lumière.
Et même le Bravely Default en tant que série, c'est une espèce de version améliorée d'un spin-off de Final Fantasy qui s'appelait Final Fantasy Les 4 héros de la lumière. Qui avait à peu près les mêmes principes, sauf que. Enfin, c'était en gros qui était plus ou moins un remake de Final Fantasy. Enfin, une adaptation de Final Fantasy 3 sur DS. C'est juste que Bravely Default, ils ont fait des trucs un peu à leur sauce et avec un système un peu plus complet, quoi.
Ouais. Ouais, peut-être, ouais, plus. Alors, je m'étais noté, donc c'est la team Octopass qui a fait ça. Mais là où Octopass se perdait un peu avec ses 8 personnages, ses 8 scénarios qui partaient chacun dans leur direction sans finalement jamais se recroiser, la fin.
C'est un des défauts d'Octopass qui avait été noté, c'était finalement les scénarios sont très indépendants les uns des autres.
Et encore, même à la fin, les personnages parlent toujours pas entre eux dans les dialogues.
Ils parlent pas entre eux. Là, il y en a que 4, donc le jeu, ça lui permet de. Ça lui permet de te donner le temps de t'attacher à eux.
Ce qui était une des grandes qualités du premier aussi d'ailleurs.
Il n'y avait que 4 persos, je m'en rappelle.
Il
n'y
avait
plus.
Que 4 persos dans le premier. Même, à peu près le même genre d'équilibre dans l'équipe d'ailleurs. 2 mecs, 2 filles.
Ok.
Et un rescapé pour le coup.
Ok. Oui, bah ok. Donc c'est... Voilà, ça reste classique. Mais. Enfin, comme je disais, arrivé au chapitre 3, alors on le sent déjà un petit peu avant, où ça parle d'écologie, tout ça, arrivé au chapitre 3, je vous en ai parlé en off, désolé ceux qui nous écoutent, mais ça va commencer à parler aux pressions de l'église, et là, c'est là où pour moi, vu ce qui se passe quand tu débarques dans l'histoire, où tu te dis, ok, jeu, tu es mignon, mais tu parles de choses qui sont très adultes.
Ce qui est aussi la marque des vieux Final Fantasy quand il réfléchit. Hein. Final Fantasy VI avait notamment des histoires d'eugénisme, de mémoire.
Oui, de génocide aussi. Il y a
littéralement une fin du monde dans Final Fantasy VI, hein, d'ailleurs. Mais,
oui.
C'est un des classiques des RPG à la Square, d'avoir des histoires, des propos un peu hardcore dans des environnements mignons, mais c'est aussi comme ça que tu crées de l'impact, en faisant des contrastes pareils. Après, bon, le Pression de l'Église, c'est un classique du JRPG aussi. Hein.
Ah bah, coucou Xeno. Hein,
mais... Et Final Fantasy X aussi.
Aussi. Putain, oui, encore plus. Ouais, le 12 aussi, enfin tous.
Et du coup, on a un propos qui est parfois sérieux, extrêmement sombre, mais avec une direction artistique qui est plutôt jolie, sympathique.
Alors
mignonne.
Voilà, merci pour la transition. Parce que du coup,
c'est gratuit, c'est pour moi.
la DA, elle est alors un peu comme sur le premier en fait, mais plus belle que sur le premier. Forcément, il y a un petit saut de techno. Tu as toujours ces décors. Tu as toujours donc ces décors en 2D. Mais un peu organique, quoi. C'est du multi-plan qui va pouvoir tourner légèrement sur lui-même.
Ah, c'est espèce de truc dessiné, un petit peu précalculé.
C'est ça. Okay. C'est ça, dessiné avec un style aquarelle. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, les décors.
Ah, c'est-à-dire que sur Switch, par rapport à la 3DS, tu dois quand même avoir un peu plus de frites pour faire ça, quoi.
Bah, t'as plus de RAM, donc tu fous un petit peu plus de résolution là-dessus, quoi.
Ce qui doit déjà être plus agréable. Les personnages sont tout mignons. C'est une espèce de mélange entre Wonderful 101 et des personnages chibi.
C'est ça. Et du coup, alors la mise en scène est très. Il y a deux sortes de scènes en fait. T'as des cinématiques qui arrivent vraiment à des points clés du scénario où là t'as vraiment une caméra qui va faire des petits effets. Et sinon, les cinématiques sont en mode un perso à gauche de l'écran, un perso à droite. Et ils se parlent face à face. Et t'as un feeling comme si tu assistais à une petite pièce de théâtre avec le décor en fond qui est tout flou.
C'est marrant parce que avec leur look, on dirait des. Je sais pas si vous vous rappelez de cette série. Je ne sais plus me souvenir du nom. Avec les petits personnages qui étaient justement des petites marionnettes.
Les Muppets.
En cire, non, pas du tout. C'est qui. Ah putain, je vais pas me souvenir.
On parle d'une série télé là. Hein.
Ouais, j'essaie de retrouver ça. Bougez pas. Je te laisse continuer. J'essaie de retrouver ça.
Ben, c'est un peu la Little King Story, et on ne parle pas assez de ce jeu, il était trop bien. Et du coup, voilà, donc t'as ces petites scènes théâtre, et pour moi, en fait, tu retrouves un petit peu ce feeling à l'ancienne, où à travers ces petits persos minimalistes, entre guillemets, parce qu'ils ont quand même des expressions de visage et des mouvements de bras et de jambes. Oh, ils ont des pieds ce coup-ci, d'ailleurs. Donc à travers voilà, ces persos minimalistes, ils arrivent à faire passer une dynamique dans les dialogues ou des émotions comme on pouvait le faire à l'époque avec juste un tas de pixels.
Ouais, pour le coup, c'est alors de ce que j'ai vu de la DA, on reste quand même très proche de ce qu'il y a sur 3DS. On n'a pas l'impression d'une grosse update visuelle, on reste un peu dans le même.
C'est plus lisse, c'est plus HD.
Ouais, et pour le coup, le fait que ce soit plus lisse, je trouve que c'est plus dérangeant. J'ai beaucoup de mal avec le rendu des personnages personnellement. Qui a un côté un peu trop shiny. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il jure un peu avec les décors et compagnie.
Je vois ce que tu veux dire. Il y a, genre, je sais pas quelles images tu as vues. Moi, ça me l'a fait quand j'avais certains jobs équipés. Ça me l'a beaucoup moins fait avec d'autres.
Alors le peu que j'ai pu jouer aux démos, parce que j'avoue que le.
Alors, sachez.
On en a peut-être quand on parlera des combats d'ailleurs. Mais,
voilà, je le place. La démo, elle est en mode hard. Sachez-le. Hein.
Oui, mais alors pour le coup, visuellement, c'est vrai que ça me troublait un peu. Et donc, par rapport à Octopath, qui a aussi un visuel assez simple, je trouvais que dans Octopath, ça marchait mieux. Et sur 3DS, ça marchait mieux Bravely Default, alors que sur Switch, je sais pas, il y a. Ça fait un peu jeu mobile, quoi.
Ouais.
Ah, attention, quelque chose de pute a été dit. L'alerte pute, où elle est. Ah,
c'est ça, oui, non, voilà. Tu sens que c'est comme il disait sur GK, tu sens que c'est un jeu qui a été fait avec le budget des petits fours de Final Fantasy, quoi.
C'est exactement ça. Et ça se sent.
Vous savez que c'est pas impossible.
Non, mais ça se sent. Les mecs, tu vois qu'ils ont pas de thunes. Il y a des trucs qui manquent un petit peu de polish au niveau technique. Putain, mais ces transitions, on dirait que c'est préparé, quoi.
Incroyable.
Niveau technique, en fait, le jeu, globalement, il fait le taf. Hein. Si comme moi, vous, dans ce type de jeu, j'attache énormément plus d'importance aux mécaniques de gameplay qu'à la technique pure. Genre, c'est pour ça qu'un FF qui va m'en balancer plein la gueule mais qui va être chiant comme la mort, coucou le 13, il me gonfle, quoi. Alors qu'un truc comme le 7, 8, 9, je peux toujours y rejouer avec plaisir, même s'ils sont datés aujourd'hui, quoi. Donc le jeu il fait le taf, mais c'est vrai que ça lui arrive de temps en temps de ralentir. Donc quand tu as une mécanique d'accélération du temps pour zapper entre guillemets, pour accélérer au maximum les combats chiants que tu sais gagner d'avance.
Merci à l'existence de cette chose.
Oui. Et ça, c'est tellement pratique. J'en parlerai un petit peu après.
Ça faisait partie des trucs très très originaux de Bravely Default, justement, c'était de dire, bah oui, on sait que les RPG japonais, de temps en temps, il y a du grind un peu à la con, surtout dans les RPG à l'ancienne, donc on vous permet de le faire sans trop vous casser le...
Ils avaient même fait un truc très bien dans celui-là, c'est que tu pouvais couper les combats aléatoires. Tu pouvais mettre à 0% le taux d'apparition.
Ouais, alors là, tu ne peux plus... Mais les ennemis apparaissent sur la carte.
Tu les vois sur la carte, oui.
Tu les vois sur la carte quand ils sont de niveau plus faible. Enfin, quand ils savent, en gros, qu'ils vont se faire défoncer, ils se barrent. Et sinon, ils t'aggro. Et ça permet quelques mécaniques pour faciliter le grinding. J'en parlerai un petit peu après quand je parlerai du gameplay. Et je disais, donc oui, le jeu, ça lui arrive de temps en temps de se prendre des micro-freezes quand tu accélères le temps vraiment à fond. Mais c'est un micro-freeze d'une demi-seconde ou le temps qui dépile tes inputs.
C'est rigolo parce que ça fait vraiment ça, quoi. Effectivement, le temps que le truc dépile tes inputs alors qu'il est en accéléré, bon bah il faut quand même calculer ça, quoi.
C'est Attends, ça. Laisse-moi 2 secondes le temps de vérifier ce que tu as mis dans la chaîne.
C'est ça, c'est ça. Et tu as de temps en temps justement un micro-freeze, alors vraiment micro, mais tu le sens quand tu ouvres le menu pour accéder aux équipements, choix de classe, compétences,
c'est
tout ça.
C'est pas fait exprès pour justement figer l'action de faire popper le menu, parce que moi ça me choquerait pas. Hein.
Peut-être. Voilà, il choque pas plus que ça. De temps en temps, tu te prends des petits coups de frayeur quand tu vas pour lancer un dialogue qui va lancer une cinématique, alors cinématique en mode théâtre, où t'as ce petit temps de freeze là de 800 millis, où tu te demandes si le jeu a pas frisé, et en fait c'est juste le temps qui charge les assets et l'audio du dialogue, quoi.
Ouais, c'est pas pire que les 2-3 secondes d'attente quand tu dois parler à un PNJ dans FF7 Remake.
Mon dieu.
Enfin, si vous y avez pas joué, vous avez l'occasion de voir ce genre de truc, c'est très étrange.
Ouais. J'ai parlé des persos qui sont sur la carte. Oui, alors juste, le jeu te prend jamais en pute. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié.
Il va nous falloir du détail.
Pour les sauvegardes, tu peux sauvegarder n'importe où en ville, n'importe où sur la world map, et quand tu es dans un donjon, donc ça, c'est, il te le dit dès le départ, il te dit attention, quand vous voyez un point de sauvegarde, faites en sorte de vous soigner, parce qu'il va peut-être y avoir un boss après. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans le jeu, alors bon, c'est lié au scénar, mais le jeu te dit clairement attention. Si tu passes cette porte, tu pourras plus faire demi-tour pendant un petit temps.
Ça j'avoue, ça fait partie des petits trucs sympas dans les RPG où il dit là fais gaffe, prépare-toi. J'avais joué un jeu comme ça cette année qui me disait clairement fais gaffe, fais en sorte d'avoir bien équipé le personnage principal parce qu'en fait, juste après, j'avais un combat solo avec lui, quoi.
Bah, ce qui est intéressant dans ce genre de truc-là, c'est surtout que... Il y a des gens, ça les sort complètement du jeu, et je le comprends, puisque là, c'est vraiment une mécanique de jeu vidéo, c'est-à-dire que ça tue la narration, c'est pas amené de manière...
Ah, mais là, c'est pareil, hein. C'est vraiment un écran de texte en bas avec une typo particulière qui te dit « Attention, ça pue la merde en face. »
Ouais, mais dans un système, ça me choque pas, en fait.
Bah, en fait, je sais qu'il y a des gens que ça choque, j'ai vu des gens qui critiquaient ça en disant « Bah oui, mais ça tue un peu l'immersion, mais dans le même temps... » nous sommes tous des gens occupés, et effectivement, moi, le fait qu'on me dise « Attention, tu vas démarrer une section de jeu qui va durer longtemps, tu pourras pas faire demi-tour pendant un moment, donc peut-être arrête-toi maintenant, peut-être sauvegarde maintenant, peut-être... » Moi,
sauvegarde
je trouve ça
avant.
Extrêmement appréciable.
Ouais, parce que je me suis fait avoir, en fait, sur un donjon optionnel pour choper un job optionnel, le jeu m'a dit « Attention, si tu acceptes tel dialogue... » Tu pourras faire demi-tour pendant un moment. Je dis ouais, pas de souci, mec, j'y vais. J'ai cru que je mettais softlock. Mais tu ne peux en fait jamais te softlock, putain, je vais y arriver. Parce que tu as toujours avant le boss qui va te faire chier, moyen d'aller grinder. Enfin, tu peux aller t'empaler sur le boss, dire ok, il avait telle faiblesse, il faisait telle stratégie, J'étais préparé comme ça, ça ne marche pas du tout. Je pense que telle stratégie avec tel équipement va marcher. Bon, bah, j'ai fait le connard, je me suis pas préparé, mais je peux aller le farmer.
Ouais, ça me rappelle. Il y a Baten Ketos qui est extrêmement connu pour ça, où il y a un donjon du jeu où tu peux rester enfermé et voir limite ne plus jamais ressortir. Parce que le boss dedans est connu pour être extrêmement fort. Et ceux qui ne connaissent pas le système d'XP de Baten Ketos, il faut savoir qu'on peut monter de niveau qu'en allant à l'église, église qui est accessible dans certains points de sauvegarde, qui est représenté par une fleur bleue. Et sauf que dans ce donjon, bah, il n'y a pas de point de sauvegarde. Tu n'as accès qu'à la fleur rouge qui ne permet pas d'accéder à l'église. Donc tu peux être bloqué sans pouvoir monter de niveau contre ce boss. Et c'est très connu, ça.
Non, là, il y a systématiquement autour d'un point de sauvegarde, en fait, il y a toujours des ennemis qui peuvent popper si tu as besoin.
Ouais, ça c'est toujours un truc qui est sympa, surtout sur ce genre de jeu. Parce qu'après, je pense qu'on va parler des systèmes à un moment, mais si c'est comme le premier, c'est des jeux où le système est extrêmement poussé. Et en fait, tu passes énormément de temps.
Mais là, c'est la folie.
Bah, Bravely Default, le premier de mémoire, avec un système de job plutôt simple et carré, en fait, avait énormément de possibilités et tu pouvais passer énormément de temps dans les menus à juste optimiser tes personnages pour vaincre un boss en particulier.
Mais là, c'est pareil.
Ce qui était surtout vrai pour les combats optionnels de la dernière partie du jeu.
Il y avait un post-game aussi sur le premier.
Il y avait un donjon optionnel que j'avais pas fait. Mais dans l'histoire de boucle, ce qu'ils avaient fait très intéressant, c'est qu'en fait, certains boss que tu vas affronter, tu pouvais les réaffronter, mais c'est des combinaisons de personnages différents. Et en fait, dans le 8e chapitre, qui est en fait l'avant-dernier du jeu, tu affrontais des équipes de 4 boss, donc c'est les boss avec qui te donnent les jobs. Et en fait, ils avaient des combinaisons qui étaient au poil de fion, qui étaient prévues, et je me souviens qu'il y avait un boss, j'ai mis beaucoup de temps à le passer, parce qu'il avait une combinaison quasiment en un tour, il travaillait ton équipe. Et c'est passé au simple fait que j'ai ralenti un personnage qui fait que leur séquence d'activation pouvait plus marcher. Donc c'est vraiment un jeu d'opti, hein, Bravely Default.
Et
peux le faire sérieusement.
Et bien, on va passer justement du coup au gameplay, aux différentes mécaniques et combinaisons.
Juste, j'en parle vite fait, j'en ai pas parlé dans les dialogues, et ça peut-être que Mortal, ça peut t'intéresser. Niveau dialogue, pour moi, la dose, elle est parfaite. Il y en a ni trop, ni pas assez. Ça va vraiment droit au but, c'est des trucs très simples, très efficaces. Et après, si comme moi tu aimes bien développer un peu l'univers, le lore, tu as tout un tas de dialogues optionnels.
D'accord, qui s'intègrent vraiment dans l'histoire, mais
qui s'intègrent dans l'histoire, qui se déclenchent un peu façon Tales of, où tu avais ces petites scènes de dialogue, où tu as juste une vignette avec les persos, leur gueule à droite à gauche de l'écran. Mais c'est à toi de les déclencher. Si t'as pas envie de les voir, bah t'avances.
Ça c'est bien ça.
Et si tu les zappes et que tu te dis merde, putain, en fait j'aurais bien aimé voir ce qu'ils racontaient.
Tu peux les revoir dans le menu.
Tu peux les revoir.
Ah, ça c'est bien aussi ça.
Tu peux les revoir, rien n'est perdu. Si tu zappes le tuto, tu peux aller le revoir.
Ça c'est sympa aussi comme option parce que ça me.
Contrairement à Xenoblade 2.
Ah non, putain, c'est dans Torna qu'on pouvait
le revoir. Quel enfoiré.
Désolé.
Là c'est dans Torna, t'as raison. Non mais là pour le coup t'as raison.
Non mais là en l'occurrence oui c'est vrai.
Mais ceci dit, on a fait un article sur Xeno, allez le voir. Si vous avez zappé le tuto...
Exactement.
C'est bien mieux expliqué
que le tuto entre nous.
Oui, surtout.
Bon, bref.
Les mécaniques.
Voilà, le gameplay et les mécaniques. Donc, moi, je n'y connais rien. Je suis une grosse tanche. Je sais faire taper.
Taper.
Alors, est-ce que déjà, on a le même système de job que dans le premier?
Alors, c'est pas les mêmes jobs.
Oui, non, mais j'espère.
Mais est-ce que c'est le même système?
C'est le même système, donc c'est du tour par tour. Alors je me rappelle plus
si
dans le premier.
Est-ce que c'est du tour par tour tactique en temps réel?
Non.
Quel enfoiré.
C'est pour savoir.
Non, c'est très très simple. C'est du tour par tour vraiment à l'ancienne avec une jauge ATB.
Ah,
donc, Active
pas
Time
avant.
Battle. Alors, elle y était avant, sauf que là maintenant tu la vois, mais tu la vois pas se charger.
Alors avant c'était. C'était plutôt à l'ancienne où en fait tu. Je sais plus si on. Les personnages laissaient chacun leur tour, où tu sélectionnais le tour de tout le monde, et après le tour se déclenchait, et c'était par ordre de vitesse. Je crois que c'était
ça.
C'est vraiment le système à l'ancienne, à la Golden Sun.
D'accord. Donc là, c'est vraiment. Imagine que tu as une jauge d'ATB qui se charge, sauf que tu ne la vois pas se charger, mais tu as quand même un indicateur graphique qui te montre à quel point elle est chargée. Tu sais qu'en fonction de la caractéristique de rapidité de ton personnage, elle va augmenter plus ou moins entre deux tours. Et bon, alors quand c'est à toi, tu enclenches tes actions. Et la nouveauté que j'ai bien aimé aussi par rapport au premier, c'est que tu as un petit indicateur sur les ennemis qui te disent attention, c'est bientôt son tour à lui.
Ah, donc tu peux éventuellement anticiper ça. Il y a un
tu
machin
peux
qui fait qu'il genre il clignote peux... parce que tu sais que ça va bientôt être lui. Quoi,
il a un point d'exclamation sur sa gueule, en gros, et tu peux soit aller le ralentir, soit le stopper, soit balancer toute la purée dessus pour dire, toi, tu me fais pas chier, c'est mon tour.
Il y a des options pour, justement, limiter les mouvements des adversaires.
Ouais, oui, oui. Enfin, des options, des compétences, quoi.
Oui, voilà, c'est ce que je veux dire, par option, quoi.
C'est pas... moi, je trouve ça plutôt intéressant comme mécanique, c'est-à-dire que tu peux... Ça te permet aussi d'aller, effectivement, anticiper la suite de la bataille et éventuellement d'aller, je sais pas, bloquer le magicien d'en face qui pourrait aller buffer...
Exactement. Exactement. Et oui, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas à la Octopass, en fait, on ne voit pas exactement l'enchaînement des tours entre les persos. C'est à toi de le piffer. Donc c'est à toi, en fait, donc le système de Brave et le Default, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de pari de tours. Quand c'est à ton tour de rentrer des actions, tu peux faire un short sell sur tes tours, donc prendre des tours d'avance, ou en économiser pour les balancer plus tard.
Alors, sachant que Default, c'est la défense.
C'est ça. Okay. Donc, Default...
alors, personnellement, j'achète, mais si tu fais un short squeeze...
Si tu fais un short squeeze, tu peux te faire baiser, justement.
T'as intérêt à profiter d'un petit levier.
Tu peux te faire grave baiser.
Parce il y en a qui ont regardé Eureka.
Comme le... Alors, oui, ça y était dans le premier, la mécanique de scan, pour repérer les faiblesses.
Oui, ça y était. Je sens que c'est la compétence de base du premier job. Hein.
C'est la compétence de base du freelance, on est d'accord. Donc là, elle y est. Il y a aussi un objet loop. Si tu n'es plus freelance, ce qui te permet d'aller regarder quelle est la faiblesse d'un ennemi, sachant qu'une fois que tu l'as repéré, elle est sauvegardée à jamais dans ton codex, et si tu rencontres le même ennemi, tu sauras quelle est sa faiblesse. Mais les contre-attaques possibles qu'il a, donc genre si sur tel ennemi je lui balance une attaque physique, il va me renvoyer un coup, ou je lui balance une attaque magique, il va me renvoyer un coup, ça c'est à toi de t'en rappeler. Donc si jamais comme un connard tu fais un short sell en balançant tous tes tours sur un gars qui va être immunisé à l'élément que tu lui balances et te défoncer en retour, tu te fais short squeeze.
C'est un système dans lequel il faut...
Faut faire gaffe au début avant d'envoyer la purée en fait.
Faut faire des paris astucieux, mais ça veut dire que si t'es sûr de ton coup ou que ton pari est payant, par contre, ça paye vraiment.
Ah, si t'es sûr
de
ton
vraiment,
coup, ça fait très mal.
Mais du coup, ce que tu dis là, c'est valable pour les boss uniquement ou aussi pour les monstres de base?
Pour tous. Mob de merde ou boss. Sachant que pour les boss, il faut faire extrêmement gaffe. Parce que autant les mobs à la con, si tu balances 4 braves dessus avec la faiblesse qui va bien, tu les dégommes. Autant les boss, généralement, c'est des sacs à PV.
Ouais, comme dans le premier.
Hein. Ouais. Et là, par contre, tu as besoin d'avoir une vraie stratégie.
Donc, c'est comme dans le premier, si tu short squeeze trop vite ou mal, tu peux te faire déglinguer derrière, quoi.
Ah, tu te fais déglinguer ton DPS, tu te fais déglinguer ton healer, ton tank. Oui, parce que c'est à toi, avec tes jobs, d'aller équilibrer ton équipe. Alors, si tu veux faire une équipe full dégâts, ça peut marcher, mais si ça merde, ça va pas faire semblant. Alors, si tu fais un truc un peu plus équilibré, bah, le boss ou le mob, tu mettras un tout petit peu plus de temps à lui péter la gueule, mais tu seras tranquille. Si tu fais une équipe full healer, j'ai pas essayé, hein, je pense que ça marche pas.
Alors, tu ne peux pas mourir, mais ça dure très longtemps.
Mais voilà, je pense que c'est ça, quoi. Et alors, il y a des boss où, dans des indices du scénario, ou des indices des mobs qui sont avant, ou des indices des coffres que tu vas looter, genre, si tu lootes 3 talismans anti-ombre, bon bah tu sais que le boss en face il va lancer des attaques de d'ombre, et il vaut mieux équiper le talisman qui t'immunise à ça, quoi. Sinon, bah tu fais comme moi, tu vas t'empaler sur le boss, résister tant bien que mal, être un petit peu frustré, et puis après réfléchir, adapter ta stratégie et passer le boss.
Alors, adapter ta stratégie, ça veut dire changer les jobs, ça veut dire changer les objets, changer les attaques, changer le timing, c'est tout en même temps.
C'est changer tes jobs, changer ton équipement pour optimiser en fonction des jobs que tu as choisis, changer tes compétences passives qui sont liées à tes jobs, sachant que les jobs, une fois que tu as acquis une compétence passive, tu peux équiper la compétence passive d'un job que tu n'as pas actuellement.
Ouais, c'est la compétence passive, une fois que tu l'as, c'est définitif et elle est valable pour. Enfin, tu peux l'utiliser quel que soit ton job, quoi.
C'est ça. Par contre, c'est perso par perso. Dans le premier, il me semblait que tu pouvais
non,
partager.
C'est perso,
des...
perso, c'est perso par perso aussi.
Il me semblait qu'il y avait un partage de compétences, mais peut-être
Alors,
que je mélange avec.
C'est possible, mais il me semble que c'était. Fallait que tu les débloques. Chaque compétence de classe, fallait que tu les débloques avec un perso pour les avoir.
Hein. Mmh. Bah là, c'est le même délire. Et voilà, et si tu te dis merde putain, il me faudrait la compétence machin, mais je l'ai pas. Alors, soit tu vas farmer, soit, et là je me fais une auto-transition. Ce que j'ai énormément apprécié sur celui-là, c'est que tu as des aides au grinding. Donc, alors, sur le premier, tu avais le Street Pass, parce qu'on était sur 3DS. Alors, Street Pass qui servait à développer le village.
Très très cool d'ailleurs, hein, comme option.
Ouais,
il y avait donc, des boss optionnels dedans.
Donc, ça a disparu. Mais tu as toujours un système d'expédition, alors qui impose une petite discipline. Je vous expliquerai comment je fais, c'est rigolo. Très rapidement dans le prologue, on débloque ça et en gros il y a un PNJ à aller voir. On lui dit oui, je veux partir en expédition. Et quand ta console est en veille, il se passe des choses. Si ta console est en veille et en ligne, il se passe encore plus de choses.
Et quand alors, en veille, c'est en veille avec le jeu allumé
en veille
quand
avec
même.
Le jeu qui tourne.
D'accord. Ouais. Donc oui, c'est
t'appuies
sur le bouton power off et tu la remets dans le dock.
C'est ça. Ouais. C'est la limite, mais du coup, ça impose une petite discipline où le matin, tu vas te réveiller, tu vas récupérer le résultat de ton expédition avant éventuellement de changer de jeu. Et ce système d'expédition te permet de récupérer des objets qui vont alors te donner de l'expérience. Il m'est arrivé d'avoir un truc qui m'a fait sauter 3 niveaux d'un coup. Hein.
Ah oui, ça peut être violent quand même.
Ah oui, non, ça peut être très violent. Ça se lisse peut-être un petit peu dans le temps. Alors peut-être que je surabuse du truc et là maintenant j'ai des trucs qui me donnent moins d'XP. Peut-être que si je le laissais plus longtemps, j'aurais des objets fumés justement qui me referaient sauter 3 niveaux.
Donc, mais c'est typiquement le truc que tu fais, tu lâches ta partie le soir avant d'aller te coucher.
Exactement.
Au lieu de quitter le jeu, t'éteins juste la console, tu le laisses
Exactement.
Dans le dock, tu vas te coucher, effectivement, le lendemain matin, tu ramasses le pactole, quoi.
Le loot.
Ça ressemble un petit peu au Bitcoin, du coup.
Un petit peu, ouais. Putain, Bitcoin Short Squeeze, un jeu capitaliste.
Est-ce que Bravely Default
est un jeu de droite
autant ouais. d'électricité que l'Argentine?
Mais tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Bon, bref. Donc, en fait, tu c'est une aide au grind, c'est-à-dire que finalement, c'est...
Point d'XP, point de job ou thune.
C'est ça. C'est un peu comme les moi ça me fait penser aux expéditions de Assassin's Creed 4, en fait, où tu pouvais envoyer ta flotte faire des trucs.
C'est exactement ça.
Et t'avais presque pas besoin de t'en occuper, fallait juste y regarder de temps en temps pour voir où ils en étaient, quoi.
Pokémon bouclier épée bouclier aussi
Ah t'as un concept, système comme ça.
Ouais, sauf que non.
Tu peux envoyer tes Pokémon faire des missions.
Oui, sauf que dans Pokémon c'est basé sur le timer. Là, si jamais tu vires la cartouche du jeu sans avoir récupéré le loot, c'est perdu. Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris. Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris. Du coup, en fait, tu vis Bravely Default. Tu mets ta partie en soir, tu mets ta partie en veille le soir, tu vas récupérer le matin, tu penses à sauvegarder, tu changes de jeu, tu fais ta petite partie de Hades tranquille, tu remets Bravely Default, tu repars en XP, tu remets en pause et tu vas bosser.
Ah, tu vas bosser, tu traverses le salon.
Ouais. voilà. Tu as ça. Tu as aussi les ennemis qui vont de temps en temps lâcher un item. Alors, c'est des items typés genre appât pour insecte, un pas pour bestiole, un pas pour démon, machin. Bon, un de ces items, tu le bouffes. Mettons, tu bouffes un appât pour insecte. Tu vas friter un insecte. Le jeu va enchaîner les combats. Et si tu enchaînes les combats, tu as un bonus de points de job. Ça, combiné au fait que le freelance, je vous conseille de le monter au max très rapidement, parce que ça...
Arrivé à la moitié du... qui augmente les points de JP de,
À la moitié
job.
Du job, tu as 20% de bonus, à la fin du job, tu as 50% de bonus, et tu peux équiper les deux compétences qui font 70% de bonus.
Et là, tu as une masse JP.
Donc là, tu équipes ça en permanence, tu grind max, et t'es tranquille. T'es tranquille. Donc si pour un boss, tu as besoin d'un job qui pourrait te simplifier le boulot, c'est vite fait, quoi.
Ouais, d'ailleurs, enfin, tiens, en parlant...
Honnêtement, en un quart d'heure, tu montes niveau 8. Le niveau 12, c'est le niveau max qui va débloquer un deuxième spécial. Donc ça, j'en reparlerai vite fait après. Et alors, je me suis vite fait spoiler pour savoir combien de chapitres il y avait dans le jeu. Il y en a 5. Le jeu termine d'une certaine manière, mais tu peux refuser la fin et tu as accès à 2 chapitres bonus. Sache.
Il y a les crédits qui démarrent et tu fais non.
C'est ça, il y a les crédits qui démarrent, tu fais ah putain, ça a fini comme ça en fait, et là en fait, post-game et tu peux changer la fin. Et dans ce post-game, tu peux bourrer le. A priori, tu peux bourrer le niveau de tes jobs jusqu'à 16, je crois.
Ah, et du coup, au niveau des jobs, est-ce qu'il y a des trucs assez sympas? Parce que je crois que dans la démo, c'est des trucs assez basiques, genre.
Alors,
le moine,
dans la démo, c'est très basique. C'est mage blanc, mage noir, machin. Il y a des trucs très sympas. Alors, tu as donc tous les grands classiques. Donc, gros DPS sa mère, DPS modéré. Mage blanc, noir, rouge. Et dans les jobs un peu plus originaux, alors gros tank, gros massif tank, mais qui fait zéro dégâts aussi. Un job que j'adore. Alors, donc les spéciaux. Une fois que le scénario te le permet, tu peux, après avoir utilisé un certain nombre de fois une compétence d'un job, balancer une attaque spéciale qui est liée à ton job. Quand tu arrives au niveau max, donc quand tu équipes un job, tu as une compétence passive de base. Quand tu es au niveau max de ce job, tu en as une deuxième. Tu peux équiper 2 jobs à la fois, donc un job principal et un secondaire. Et il y a un des jobs qui fait que tu as accès aux compétences passives de ton job secondaire, quoi qu'il arrive. Et avec ça, tu peux faire vraiment des combos, mais fumés, quoi. Typiquement, là, je n'utilise plus depuis une dizaine d'heures, je n'utilise plus aucune potion, plus aucun éther, parce que j'ai un de mes personnages qui les régénère sans arrêt pour l'équipe. Avec un combo de compétences entre deux jobs.
Ouais, bah c'est souvent comme ça, les objets, au bout d'un moment, ça ne sert plus à grand-chose. Hein.
Alors, ça ne sert plus à grand-chose, mais tu as un job qui s'appelle le maître des potions, qui est un job optionnel, celui sur lequel j'ai cru que je mettais softlock, mais en fait, non.
Ah bah c'est un job bien, je crois, celui-là, en plus.
Et bah celui-là, il est uniquement basé sur les objets. Celui-là, en fait, tu vas... Enfin, mini-spoil, tu vas pouvoir utiliser des objets sans les consommer, ou combiner des objets entre eux pour faire des trucs de l'espace.
Ah, ça me rappelle l'alchimiste de Octopath.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu as certaines combinaisons d'objets qui vont te donner des tours bonus, qui vont permettre soit de défoncer le mec en face, soit de buffer ton équipe. Tu en as, alors, je l'appelle le job Splatoon, il est très très drôle. Je sais plus comment ils appellent ça. En gros, c'est le peintre, quoi.
Non, mais il tartine l'écran et puis,
il tartine le mec en face, il a un effet de peinture sur la gueule à la Splatoon, et une fois que t'as l'effet de peinture sur la gueule, alors par contre faut faire gaffe parce que tu peux l'avoir sur toi aussi, une fois que t'as l'effet de peinture sur ta gueule, t'es faible à tout, donc si on te tape avec une cuillère à café, ça peut te faire très mal. Et comme dans le premier, alors je sais plus si dans le premier c'était à ce point là, là un truc que j'ai trouvé très très cool, c'est qu'en fait pour débloquer les jobs il faut aller friter des boss.
Oui, bah c'était ça, que dans le premier, il fallait taper des boss pour avoir les jobs.
Et bah alors, du coup, comme dans le premier, ce que j'aime bien avec ce côté-là, c'est que tu as un aperçu des possibilités du job en te le prenant dans la gueule avant que tu le récupères et que tu saches à peu près ce que tu vas pouvoir en faire.
Surtout, t'avais, comme des fois, tu avais des combats où tu avais 2 jobs en même temps, tu peux aussi avoir des idées de synergie, ce qui était assez sympa.
Oui.
Tout à l'heure, je parlais justement de l'équipe de 4 mecs qui était pensée de telle façon à ce qu'en un tour tu te fasses exploser. Bah, c'était un peu ça, des synergies où tu fais vraiment beaucoup de dégâts, quoi.
Oui, non, mais voilà. Là, je suis arrivé au chapitre 5. Hier, le chapitre 4, donc celui qui te demande d'aller revisiter machin, revisiter tous les villages, à un moment, je me suis dit, attends, je vais aller voir si tu me refais pas le coup de la boucle. J'avais repéré un combo qui me permettrait plus ou moins de rouler sur le jeu, je l'ai mis en place, bon, le chapitre, je l'ai défoncé en 1 heure. Quoi. Mais, ne faites pas forcément ça. Faites en sorte de changer régulièrement de job pour... dans le cas où vous arriviez en face d'un boss où vous dites « Merde, en fait, avec telle compétence, ça irait vachement mieux », que vous n'ayez pas à farmer pendant 3 heures. Quoi. Autant le faire... Pendant l'avancée normale d'un donjon ou pendant une quête annexe. Quoi. Quête annexe d'ailleurs. Alors les quêtes annexes.
Oui.
Alors,
au global, rapidement les quêtes annexes, puisqu'on a déjà fait un petit bout.
Au global, elles sont bof.
Ah, c'est con, ça contraste alors, peut-être un peu avec le reste du jeu, du coup, non ?
Elles sont bof, c'est un peu... C'est quête FedEx, ou c'est chasse aux mobs, ou c'est...
Oui.
Ouais. J'ai besoin d'avoir des nouvelles de tel pélo, qui est juste à côté.
Très bien, donc c'est... Oui,
ok,
c'est
bah, j'y vais, je reviens.
C'est une quête FedEx, ou alors... Ah, il y a plein de rats dans la plaine.
Voilà, c'est un peu ça. Mais elles sont faites pour aller te faire visiter des endroits où généralement il y a un coffre pas loin que tu aurais pu louper, qui te donne un objet qui pourrait t'aider plus tard ou débloquer des choses chez le marchand. Voilà. Donc j'étais un petit peu mitigé, à part sur une quête alors qui est accessible dès le chapitre 1. Et notez bien, elle est accessible dès le chapitre 1. Ne faites pas le connard comme moi. Elle est, je vous le dis... Dès le chapitre 1, elle est dans la salle de jeu à Savalon après avoir battu le boss intermédiaire, qui débloque un jeu de cartes.
Oh, le fameux jeu de cartes.
Donc c'est un jeu dans le jeu, qui mine de rien est assez prenant. Je vais pas détailler toutes les mécaniques ici. C'est le chapitre 1, Galaxies, pauvre con.
Non, excusez-moi, j'avais mal entendu.
Le mec ne suit pas, voilà.
Donc ouais, c'est un jeu assez intéressant. Là qui pour le coup rappelle encore le Tetra Master ou le j'ai bouffé le nom de celui du 8 ou 9 Triple Triad, merci Zergy. Et donc on se demande quel est l'intérêt de ce truc, et en fait si tu arrives à compléter la totalité de la liste des cartes, il y a un job optionnel à la clé.
Oh, oh putain, la quête annexe de l'enfer.
Oui, oui, mais c'est... Alors, par contre, elle est sympa, c'est-à-dire que tu as... Si tu gagnes, tu piques une carte de ton adversaire. Il y a énormément d'adversaires qui ont une règle de base qui dit que si je perds, je ne perds pas de carte. Sachant que si tu perds, tu as une roue qui est lancée qui fait que tu as une possibilité de ne pas perdre de carte. Et si, par malheur, tu perds une carte dans ton codex, tu sais quel est le PNJ où tu peux aller la récupérer.
Ah, ça, et t'as pas la possibilité de déclencher un combat pour lui casser sa gueule pour quand même récupérer ta carte.
Ça me rappelle le jeu de cartes de King of Cards où justement il y avait système de récupération de cartes à la fin. Mm. Donc c'est un peu de la même façon, et je crois que d'ailleurs tu pouvais récupérer les cartes qu'un PNJ t'avait volées.
En rebattant le... Oui, bah, c'est ça, ouais, c'est pareil, il faut aller le rebattre et puis roule quoi.
Après je sais plus s'il y avait ça, un truc pour quand t'avais collectionné toutes les cartes. Mais ça faisait partie d'une quête annexe avec un boss optionnel dans ce jeu-là. Et d'ailleurs, le boss optionnel de King of Cards était un peu un hommage à Final Fantasy. Que c'est assez chouette. Je vous recommande d'ailleurs King of Cards.
Et donc voilà, elles sont très bof jusqu'à ce que tu arrives au chapitre 5. Où là, tu as accès donc encore à toute cette partie comme les petits dialogues optionnels. Tu as donc des quêtes annexes que tu peux choisir de ne pas faire. Parce que finalement, elles ne donnent que des objets. Pas d'expérience ou de points de job. Mais arrivé au chapitre 5, les quêtes secondaires sont beaucoup plus scénarisées et elles vont étoffer le passé des personnages et les liens entre eux. Et dans le scénario principal, ça tombe à point en fait. Ça t'attache à ces personnages en sachant ce qu'ils viennent de vivre, et c'est très très cool. Donc voilà, si vous voulez un RPG à l'ancienne, mais un petit peu modernisé quand même, c'est juste parfait. Pensez à changer de job régulièrement, notamment parce que le job de freelance, plus vous avez maîtrisé de job, plus il est fort.
Traverser la rue aussi souvent que possible.
Et voilà, c'est simple, droit au but, cool. Si vous avez envie d'aller droit au but, vous pouvez. Si vous avez envie de développer un peu le lore, vous pouvez. C'est cool.
Voilà, donc Bravely Default 2 reçoit la note de 3 orteils. Sur 4.
Wow, c'est un peu ça, ouais.
Est-ce que c'est un thriller Seal of Sapa?
Je sais pas s'il y a joué, je sais pas s'il est client de ce genre de truc.
Je serais curieux, tiens, de savoir s'il est client de ce genre de truc. Ça me choquerait pas. Bref, donc nous allons nous quitter là, parce que cette émission a duré beaucoup trop longtemps, et pour tout un tas d'autres raisons. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines, je ne sais pas du tout quel sera le sujet pour l'instant.
Si on fait du Monster Hunter, on va rigoler.
Non.
Non, il y a peu de chance.
Voilà, par exemple, ça, il y a très peu de chances que ça se fasse.
Personne n'y joue ici.
Ça sent le sujet rétro ou le sujet général.
Ça sent le sujet plus général. Je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve dans 2 semaines. On vous fait des bisous à tous. Ciao.
Bye bye.
Bisous.